Michel Cassé, ce matin, en me voyant, m'a dit « Je te souhaite une belle année-lumière ». C'est joli, très joli. Bon, merci Michel. Donc voilà, écoutez, alors moi j'avais envoyé une carte postale qui était de... J'ai voulu la mettre ici, puis j'ai pas eu le temps. D'un artiste contemporain, Cruz Diez, qui fait des tableaux un peu lumineux, à plusieurs couleurs, et ça vibre un petit peu. Ça s'appelait Univers en mouvement. Je trouvais ça très, très beau. Voilà. En espérant que l'univers sera encore en mouvement en 2011 et que un certain nombre de choses bougeront. Je crois qu'on en a tous besoin. Voilà. Alors ce matin, vous avez tous vu l'éclipse, j'imagine. Hein, voilà. Il paraît, on vient juste de me dire qu'à la télévision, on a eu droit à quoi, une seconde d'éclipse. Alors je présume que c'est parce qu'ils avaient peur que les gens soient éblouis, c'est ça, hein? Certainement, oui. Les dangers oculaires, on avait bien dit, ne regardez pas plus d'une seconde. Voilà. Mais je crois que dans le sud de la France, il y a eu, là, on pouvait voir l'éclipse à 60%, mais en tout cas pas à Paris. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Mais la transition sera facile, puisque je crois qu'on va parler pas mal d'éclipses aujourd'hui, ou en tout cas de la manière dont nos ancêtres, les anciens, comme on dit, ont regardé le monde et ont regardé le ciel, en particulier le mouvement du soleil. Donc Denis Savoie, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, parce que ça fait déjà 25 ans qu'on le rencontre au planétarium, pour le plaisir de tout le monde. Hein. Il anime de nombreuses séances au planétarium, il nous montre le ciel d'une manière qui donne cette chaleur humaine qu'il y a, que l'on connaît bien au Palais des Découvertes, qui tranche sur beaucoup d'autres modes de représentation que l'on rencontre dans des planétariums plus modernes où on voit des animations complètement numérisées. Là, non, là, on entend sa voix, on le devine dans l'obscurité. Et il nous montre le ciel du planétarium qui est absolument magnifique grâce à la projection, la qualité de la projection de Zeiss. Voilà. Mais il n'est pas que... Alors il est, en même temps, il dirige donc le planétarium, mais il dirige aussi ce que j'ignorais. Hein, je ne savais pas qu'il y avait un département d'astronomie astrophysique au planétarium. Bon, je pensais qu'il y avait des gens qui s'en occupaient, évidemment, de l'astrophysique, mais il y a un véritable petit département de 8 personnes, 8 permanents, plus des animateurs, plus des gens qui font des stages, voire même, si j'ai bien compris, qui font des thèses, donc que tu diriges d'ailleurs avec eux. Voilà. Et bon, ça c'est une partie de l'activité de Denis Savoie. L'autre partie, c'est que depuis quelques années déjà, oui, il a intégré le groupe de recherche qui s'appelle le CIRT à l'Observatoire de Paris. C'est, le CIRT est un département où la recherche se fait au l'ancien département d'astronomie fondamentale de l'Observatoire. On y travaille autour de l'histoire de l'astronomie, donc c'est en particulier une des activités qui a conduit Denis à y aller, mais il y a également... la mesure du temps, je ne sais pas si... Oui, est-ce qu'il y a également la mesure des positions, la planétologie, oui, c'est plutôt l'IMCCE?
Le service de rotation de la Terre.
Voilà. Donc c'est un département très actif et je pense que c'est un des compléments où Denis Savoie trouve son épanouissement en dehors de ce qui se passe et de ce qu'il fait au planétarium, parce qu'il y a la partie plaisir qui est effectivement de rencontrer le public, de transmettre les connaissances, mais il y a aussi une bagarre qui continue à se mener et qu'il faut continuer, je pense, à tenir à bout de bras, qui est celle de l'existence même du planétarium, l'existence même à travers le planétarium du Palais de la Découverte. Vous savez qu'il y a eu plus que des menaces, hein, bon, l'idée de fermer cet endroit pour en faire d'autres choses. Et pour l'instant, grâce au soutien de la communauté scientifique, en particulier des astronomes, eh bien, le pire a pu être évité, mais il faut rester vigilant et espérer que la solution qui a été trouvée n'est pas transitoire et qu'on continuera à maintenir cet endroit tel qu'il est, voire même le voir se développer. Voilà. Aujourd'hui, donc Denis va nous parler de la transmission de l'astronomie antique. Je vais m'arrêter là dans cette présentation. Et puis, donc, tu as une heure de présentation. Ensuite, les questions.
Entendu.
Merci.
Bonsoir. Alors, on va aborder une certaine astronomie. Je ne vais pas vous parler d'archéoastronomie. Je ne vais pas vous parler des alignements, des mégalithes ou des élucubrations sur les peintures rupestres. On va aborder une astronomie concrète, et ce n'est pas seulement de l'observation, c'est le savoir antique. Comment nous est parvenu le savoir de l'Antiquité, qui constitue notre astronomie d'aujourd'hui, je dirais. Alors, cette astronomie va débuter, vous allez le voir, avec les Babyloniens, et on va cheminer par l'astronomie hellénistique. On va voir pourquoi il n'y a aucun manuscrit aujourd'hui en science et pratiquement dans toute la littérature antérieure au IXe siècle. On va s'intéresser également à toutes les traductions arabo-latines jusqu'à l'imprimerie. Alors en fait, cet exposé va porter sur essentiellement ce schéma que vous voyez là. Donc sur la gauche, vous avez l'échelle chronologique. On considère que l'astronomie naît véritablement à partir du 8e siècle avant notre ère, c'est-à-dire quand il y a une mathématisation. C'est de là que remontent les plus anciens textes babyloniens. Et on va s'arrêter, je l'ai dit, à la période actuelle. Cette astronomie babylonienne, vous le voyez, va s'étaler donc du 8e siècle avant notre ère jusqu'à l'époque impériale romaine, c'est-à-dire 2e, 3e siècle de notre ère. J'ai marqué deux flèches en gras pour vous montrer que tout au long de ces siècles, il y aura des échanges en permanence entre les Babyloniens et l'astronomie hellénistique. Cette astronomie hellénistique naît grosso modo au 4e siècle avant notre ère et elle va s'étaler jusque grosso modo au 6e, 7e siècle. On va comprendre dans cette astronomie hellénistique l'astronomie byzantine. Cette astronomie hellénistique, évidemment, c'est le cœur de notre astronomie actuelle en Occident. Et ce savoir antique, qui va être dominé par une figure majeure qu'est Ptolémée, va nous parvenir de deux façons différentes, soit par la voie directe en passant par la translittération des textes grecs au IXe siècle, qui aboutira à l'imprimerie, soit par la voie arabo-latine, qui passera par l'Espagne, la voie italienne. Si j'ai le temps, je dirais quelques mots des échanges qu'il y a eu entre l'astronomie arabo-persique et l'astronomie byzantine. Je devrais rajouter encore une autre astronomie que j'ai omise, qui est l'astronomie indienne, avec laquelle il va y avoir des échanges dès la Haute Antiquité entre les Babyloniens et les Grecs. Donc c'est ce schéma que nous allons commenter au cours de cet exposé, et je vais le rappeler plusieurs fois. Le cadre, dans un premier temps, de cette astronomie, c'est évidemment le bassin méditerranéen et la Perse. Cette carte vous montre l'état du monde hellénistique à la période séleucide, donc on est grosso modo au 4e siècle avant notre ère, jusqu'à la conquête romaine au 1er siècle de notre ère. C'est une ère culturelle considérable qui s'étend pratiquement, vous voyez, des frontières indiennes jusqu'à la Méditerranée, en passant évidemment par toute l'Asie mineure et une partie de la Grèce, évidemment, le nord de l'Égypte, puisque le grand foyer, enfin un des grands foyers intellectuels de l'Antiquité sera Alexandrie. C'est dans cet empire séleucide que va naître une astronomie qu'on a découverte très tardivement et qui a complètement bouleversé nos vues sur le savoir actuel, qui est l'astronomie donc babylonienne. Pourquoi c'est tardif ? Parce qu'il a fallu attendre évidemment le déchiffrement du cunéiforme par Henry Rawlinson, qui était un militaire anglais qui s'intéressait beaucoup dans ses voyages en Perse aux inscriptions. Et grâce à une inscription notamment qui se trouve dans l'ouest de l'Iran, du côté de Kermashan, c'est ce qu'on appelle l'inscription de Behistun, eh bien Rawlinson, pendant 10 ans, va s'intéresser à cette inscription que j'ai représentée, là vous voyez sur la gauche, c'est une photo, alors c'est très très haut, c'est pratiquement inaccessible, c'est sur une falaise. Cette inscription est très importante, elle a été tracée par Darius, donc le grand roi perse au 5e siècle avant notre ère, qui montre ses victoires sur les autres rois, et en dessous vous avez des textes qui vont un petit peu jouer le même rôle que la pierre de Rosette avec Champollion, Champollion qui avait déchiffré les hiéroglyphes quelques années avant. Et Rolifson va s'apercevoir que ces inscriptions sont en trois langues, le babylonien, l'élamite et l'acadien. Et grâce à des textes grecs, il va réussir à déchiffrer ce cunéiforme et donner accès à cette immense culture babylonienne qui fait que les Anglais, les Français, les Allemands vont investir massivement cette Perse. Ils vont faire des fouilles considérables et ils vont ramener dans les musées européens, au British Museum, au Louvre, à Berlin et à Istanbul, des centaines de milliers de tablettes babyloniennes. Parce que vous savez que le support de cette astronomie babylonienne, enfin de tout le savoir d'ailleurs babylonien, ce sont ces tablettes d'argile sur lesquelles on a gravé, grâce à un stylet, eh bien, une écriture. Alors la plupart des tablettes babyloniennes, je l'ai dit, il y en a des milliers qui concernent plutôt des actes privés, tout ce qui concerne la littérature, des lois notamment. Et une petite partie concerne des textes astronomiques. Ça, on a mis du temps à le comprendre. Et il y a plusieurs pères jésuites qui se sont illustrés dans ce déchiffrement, notamment d'abord le père Strassmayer, qui travaillait au British Museum et qui voit arriver ces milliers de tablettes au British Museum. Et il les recopie, il a un cahier, et il prend des notes, et il les recopie une par une, et rapidement il s'aperçoit que ces tablettes, ce sont des colonnes de chiffres. Alors au début on ne comprend pas bien ce que c'est, il se dit, il y a un lien mathématique et peut-être astronomique, donc il fait appel à un autre jésuite, plus jeune, le père Epping, qui lui connaît bien l'astronomie, et qui se rend compte tout de suite que ces colonnes de chiffres, ce sont des éphémérides. Alors, il dit, mais ces éphémérides, pour quelle année, dans quelle ère, de quel astre? Donc il commence à déblayer le terrain. Il s'adjoint pour ça un autre jésuite, le père Kugler, parce que Epping va décéder malheureusement assez jeune. Vous voyez, ça va mettre des années depuis 1870 jusque ensuite à la publication finale par le grand maître de l'astronomie qui était Otto Neugebauer et la publication de l'intégralité des textes. J'ai rajouté François Thureau d'Angin, qui était un grand assyriologue français, membre de l'Institut, qui a beaucoup travaillé, lui, sur cette astronomie mathématique et babylonienne, et qui a compris la structure sexagésimale de leur astronomie. Alors, cette astronomie babylonienne, elle a évidemment stupéfait tout le monde, parce qu'on a deux types, d'abord, d'informations qui ne sont pas venues dans ces tablettes. Ces petits morceaux que vous voyez là, la plupart sont des éphémérides, c'est-à-dire des positions du Soleil, de la Lune et des planètes. Une petite partie de ces textes babyloniens sont des textes de littérature astronomique qu'on ne comprend pas. C'est assez lacunaire, on n'arrive pas à comprendre la structure, qu'est-ce que ça raconte, car la difficulté, et c'est le graal un petit peu de cette astronomie qu'on cherche encore, c'est comment est-ce qu'on a fabriqué ces éphémérides babyloniennes? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'astronomie babylonienne est une astronomie, et ça c'est la grande découverte, purement arithmétique. Il n'y a aucun modèle géométrique, trigonométrique derrière ces éphémérides. D'accord ? Ce sont des fonctions, ce sont des colonnes de chiffres, ça c'est une éphéméride de la Lune, de l'ère Séleucide. Alors ça veut dire, l'ère Séleucide ça commence en moins 310. Hein. Et ça vous donne jour par jour la position de la Lune. Mais on vous donne la position de la Lune jour par jour dans le ciel par une progression arithmétique, on dirait en mathématiques, par une fonction croissante ou une fonction décroissante. Donc il n'y a aucune géométrisation derrière cette astronomie. Le problème, je le répète, c'est qu'on ne sait pas comment les Babyloniens mettaient au point ces textes. C'est comme si aujourd'hui vous aviez les éphémérides de l'IMCCE ou de la Société Astronomique de France, que vous les regardez, vous dites « Ah bah oui, effectivement, je comprends, c'est la position du Soleil, de la Lune et des planètes, mais quelle est la théorie qui a donné ça? Je ne le sais pas. » On est dans cette situation. Donc, non seulement c'est une astronomie de très haut niveau, parce qu'on vous donne évidemment la position, je l'ai dit, du Soleil, de la Lune, des planètes, on vous donne la longitude écliptique de la Lune, la latitude écliptique, la longitude du nœud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de prévoir des éclipses, d'accord? Donc on prévoit des éclipses de Lune, on prévoit des éclipses de Soleil, et on s'aperçoit que cette astronomie babylonienne, elle s'intéresse, ça va être aussi un fil conducteur pendant tout cet exposé, parce que c'est une des finalités de l'astronomie jusqu'à la Renaissance, c'est quand même l'astrologie, il faut bien le dire. Et les astronomes babyloniens s'intéressent à des phénomènes remarquables dans le ciel, les oppositions, les conjonctions, les quadratures des planètes. Donc c'est une astronomie de très très haut niveau, qu'on a pu vérifier évidemment a posteriori. Alors non seulement c'est une astronomie arithmétique, et on pensait qu'elle avait perduré jusqu'à la période romaine, et ensuite elle avait été supplantée par Ptolémée, on va voir que ce n'est pas vrai. Et l'autre grande découverte, et ça, Strassmayr et Pine ont tout de suite compris, c'est que une partie de l'astronomie grecque dérive complètement de l'astronomie babylonienne. L'astronomie grecque n'est pas née ex nihilo comme ça avec les présocratiques, comme on va le voir. La plupart des paramètres fondamentaux de l'astronomie grecque, la durée de l'année tropique, la durée du mois synodique lunaire, les périodes synodiques de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter, la période sidérale, l'inclinaison de l'orbite terrestre, c'est-à-dire l'obliquité de l'écliptique, tout ça sont des paramètres fondamentaux qui sont issus de l'astronomie babylonienne. Donc ça, c'est une découverte majeure qui était complètement ignorée, évidemment, par exemple, quand on regarde la grande astronomie de Lambre. De Lambre, qui était un prodigieux astronome et en même temps un lettré de premier ordre, pensait que c'était les Grecs qui, pendant longtemps, disaient « c'est né avec Thalès, l'astronomie en Grèce ». Eh bien non, la plupart des astronomies, que ce soit Hipparque, Ptolémée et ses successeurs, vont hériter des paramètres fondamentaux babyloniens. Alors, cette astronomie, je l'ai dit, elle va avoir de nombreux échanges, on ne sait pas comment. Personne n'est capable de répondre à la question « comment s'est effectué ce transfert des connaissances de cette astronomie babylonienne vers les Grecs ?» Autrement dit, on voit ce qu'on appelle une translation studiorum, c'est-à-dire un déplacement des aires culturelles, mais on n'est pas capable de dire par quel vecteur s'est fait cette transmission. Est-ce que c'est l'œuvre d'un seul homme? Est-ce qu'il y a eu des contacts multiples? On ne le sait absolument pas. Alors, pendant longtemps, je l'ai dit, on a cru que l'astronomie, c'était surtout les Grecs. Et je me suis dit que rien ne pouvait mieux illustrer en fait cette vision un peu naïve de l'astronomie hellénistique que cette représentation de l'école d'Athènes de Raphaël, qui mélange évidemment à la fois des personnages philosophes, des astronomes et des présocratiques. Je rappelle que vous avez au centre là Platon qui tient sous le bras le Timée, avec à côté Aristote et son Éthique, et puis sur le côté, là complètement à droite, vous avez de dos Ptolémée qui tient un globe, vous voyez, avec le bras gauche, et qui discute avec le fameux géographe grec Strabon. Puis sur le côté, il y a un peu plus d'une cinquantaine de personnages en tout, hein. Vous avez des présocratiques. Alors c'est ça la grande illusion pendant longtemps, on s'est dit, les présocratiques, c'est eux qui ont inventé la science. Les présocratiques, je le rappelle, c'est tous les astronomes et philosophes qui ont vécu, grosso modo, de Thalès jusqu'à Socrate. Alors, au début du XXe siècle, un philologue allemand, qui s'appelle Hermann Diels, a publier l'intégralité de ce qui nous est parvenu de ces présocratiques. Parce que qu'est-ce qu'on sait de Thalès? Qu'est-ce qu'on sait d'Anaximandre, d'Empédocle, etc.? On ne sait strictement rien. Rien ne nous est parvenu de ces gens-là. D'accord? Aucun écrit. Les fragments que l'on a, la connaissance de ces présocratiques, elle nous est connue par ce qu'on appelle les doxographes, c'est-à-dire des commentateurs ultérieurs, et parfois des commentateurs de commentateurs. On arrive à, par exemple, un grand commentateur d'Aristote, qui est Simplicius, qui commente un texte d'Aristote, qui commente un texte de Démocrite. Vous voyez, c'est l'homme qui a vu l'ours, en fait. Donc on peut raconter absolument ce qu'on veut. Et ce n'est pas parce qu'un grand monsieur, un grand homme, vous a raconté quelque chose sur un présocratique qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Alors, ces présocratiques, publiés par le philologue allemand Hermann Diels, vous les trouvez dans la Pléiade. Ça s'appelle les présocratiques. Et je me suis dit, je vais vous prendre un exemple. On va prendre un des plus illustres que vous connaissez. Alors, c'est un exemple classique. Hein. C'est Thalès. Donc, Thalès, 6e siècle de notre ère. Alors, on nous dit, Hérodote, donc le grand historien grec, dit « La guerre se poursuivait avec des succès égaux de part et d'autre, quand, au cours de la 6e année, subitement, en pleine bataille, le jour se transforma en nuit. » C'est l'actualité, il y avait une éclipse. Cette disparition du jour avait été prédite aux Ioniens par Thalès de Milet, qui en avait prévu la date dans les limites de l'année où elle se produisit. Autrement dit, qu'est-ce que vous retenez? Alors, ce n'est pas le seul. Hein. Vous avez Eusèbe, Cicéron, Pline, qui vous disent la même chose. Thalès de Milet, au 6e siècle avant notre ère, est capable de vous dire quand il va y avoir une éclipse et par où elle va passer. Est-ce que ça vous semble plausible? Ben non. Ce n'est pas possible. Ça va être possible plus tard. Ptolémée, oui. Les Babyloniens, oui. Ptolémée vous dit avec l'Almageste, oui, il y a une éclipse aujourd'hui, le 4 janvier. Oui, elle sera partielle. Ou oui, elle sera totale. Vous voyez ? Mais pas Thalès. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui est raconté par des successeurs, qui est faux. Thalès n'était incapable, de même qu'il n'a jamais utilisé le Saros. Vous savez qu'on a prétendu que les Grecs et les Babyloniens avaient utilisé le Saros. Le Saros n'a absolument jamais servi dans la prédiction des éclipses. Jamais. Les textes babyloniens et les textes de l'astronomie hellénistique, pour prévoir une éclipse de soleil comme aujourd'hui ou de lune, utilisent les coordonnées écliptiques des astres. D'accord ? Le Saros est un mythe inventé par Edmund Halley au XVIIIe siècle. Et malheureusement, comme tout le monde recopie tout le monde, et vous voyez, il y a encore un livre récent qui est paru chez un éditeur que je ne nommerai pas, où on dit que les Grecs utilisaient le Saros pour prédire les éclipses, c'est absolument faux. Donc, le savoir présocratique, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Rien. Il n'y a rien des présocratiques. La science présocratique, c'est une science entre guillemets philosophique. Et il y a plusieurs archéologues anglais et hellénistes qui considèrent qu'on ne leur doit rien. Ils n'ont rien inventé. C'est que des mots, c'est creux. Il y a même des historiens des sciences comme Neugebauer qui qualifient tous ces gens-là de contes. Donc, présocratique, rien. En fait, celui qui va complètement éclipser, à la fois dans l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance, l'astronomie, c'est évidemment Ptolémée. Ptolémée, donc, deuxième siècle après Jésus-Christ, l'essentiel du savoir grec nous est parvenu par son intermédiaire. Et il faut bien dire que tous les gens qu'il y a avant Ptolémée, on ne les connaît que de façon extrêmement secondaire. Hein. On n'a pratiquement rien d'eux. Alors, je vous ai pris quelques exemples, on ne va pas lister tout le monde. Eudoxe de Cnide. Donc, Eudoxe de Cnide, quatrième siècle avant notre ère. Vous savez que c'est un contemporain de Platon et d'Aristote. On nous dit que c'est lui qui a imaginé le premier cette vision cosmologique de l'univers en pelure d'oignon, où on a des sphères emboîtées qu'on appelle les sphères homocentriques, et que c'est Eudoxe de Cnide, le premier, qui arrive à expliquer la rétrogradation des planètes dans le ciel, qui, vous le savez, a été pendant très longtemps une des grandes interrogations des Grecs. Pourquoi est-ce que les planètes vont dans un sens? Pourquoi est-ce qu'elles vont dans l'autre? Eh bien, on dit Eudoxe de Cnide, le premier, l'a expliqué. Le problème, c'est qu'on n'a rien d'Eudoxe de Cnide. Aucun écrit. Donc on sait que Eudoxe de Cnide a travaillé là-dessus par, essentiellement, Aristote et Simplicius. Simplicius, je l'ai dit, c'est un aristotélicien, on va dire, du VIe siècle. Et vous savez que Galilée, lorsqu'il va écrire le Dialogo, où il fait discuter trois personnages, le neuneu de l'affaire, c'est Simplicio. Et Galilée, évidemment, s'est référé à Simplicius, hein, un aristotélicien. Ératosthène, ben vous connaissez tous Ératosthène. L'homme est surtout connu parce que c'était le grand directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. C'était aussi un astronome, un mathématicien, un géographe. Et Ératosthène est surtout connu pour avoir le premier mesuré la circonférence de la Terre. Nous n'avons aucun écrit d'Ératosthène. Rien. Rien ne nous est parvenu. Alors comment est-ce qu'on connaît l'écrit d'Ératosthène? Enfin, l'expérience. Il a connu son expérience célèbre, vous savez, avec le gnomon et le puits, par un commentateur beaucoup plus tardif, qui s'appelle Cléomède, qui vit au IIe siècle de notre ère, qui va écrire en grec un ouvrage qui va être latinisé sous le nom de De Motu Circulari, du mouvement circulaire, et c'est dans ce texte postérieur de 5 siècles que Cléomède nous raconte l'histoire d'Ératosthène. Donc bien souvent, on ne connaît le savoir antique que par des gens très ultérieurs. Aristarque de Samos, vous le connaissez aussi. Alors, il est surtout connu, Aristarque de Samos, parce qu'un seul ouvrage de lui nous est parvenu, en grec. On va en reparler d'ailleurs, ça appartient à ce qu'on appelle la petite astronomie, sur les distances de la Lune et du Soleil. C'est là que Aristarque de Samos, dans ce texte grec très important, le premier, d'après ce qu'on a, hein, établit la distance Terre-Lune, qu'il évalue à 60 rayons terrestres, qui est très exact. Mais Aristarque de Samos s'aventure sur la distance Terre-Soleil, qu'il évalue à 20 fois plus loin que la Lune. Alors vous savez que le Soleil est 400 fois plus loin que la Lune. Donc, il se trompe énormément. Eh bien, cette erreur d'Aristarque de Samos va perdurer jusqu'au XVIIe siècle. C'est-à-dire que pendant toute l'Antiquité, le Moyen-Âge et une partie de la Renaissance, eh bien, on va penser que le Soleil est seulement 20 fois plus loin que la Lune. Alors, ce n'est pas là l'essentiel. Beaucoup de gens vous parlent d'Aristarque de Samos. Vous pouvez voir sur Internet, d'ailleurs, où il y a à boire et à manger, on vous dit « Ah, c'est le précurseur de l'héliocentrisme ». Effectivement, On connaît le pseudo-héliocentrisme d'Aristarque de Samos, mais pas par lui, par un contemporain qui s'appelle Archimède. Archimède a écrit un ouvrage qui s'appelle l'Arénaire, c'est-à-dire en gros celui qui trace des figures sur le sable, et c'est dans l'Arénaire que Archimède parle de l'héliocentrisme supposé d'Aristarque de Samos. Or, l'Arénaire a été publié, a été connu du monde occidental en 1544, soit un an après la mort de Copernic. Conclusion, jamais Copernic n'a pu connaître l'héliocentrisme d'Aristarque de Samos. Donc en aucun cas, on ne peut dire qu'Aristarque est un précurseur de Copernic. La théorie des précurseurs en astronomie comme en science est extrêmement dangereuse. Donc qu'un seul ouvrage, alors qu'on sait qu'au dire de ses contemporains, il avait écrit sur plein d'autres choses. Géminos. Bon, Géminos, c'est un astronome du 1er siècle avant notre ère. Vous pouvez trouver sa prose, parce que là, elle nous est parvenue. Ça s'appelle « L'introduction au phénomène ». Vous pouvez la trouver, évidemment, dans le seul éditeur sérieux, Les Belles Lettres, donc avec une traduction grecque-français en vis-à-vis. Alors, l'introduction au phénomène de Géminos, c'est une espèce de cosmographie, si vous voulez. C'était, vous savez, ce qui était enseigné jusque dans les années 60 au lycée. C'est pour ça que ce texte vous est parvenu, parce que ça faisait partie d'enseignement astronomique. Apollonius de Perge, 3e siècle avant notre ère, vous le connaissez aussi. C'est l'homme qui a, au dire de Ptolémée, le premier imaginé le système des épicycles et des excentriques. D'accord ? Le problème, c'est que son ouvrage ne nous est pas parvenu. Le seul ouvrage que l'on possède d'Apollonius de Perge, c'est son traité sur les coniques, où il invente les mots ellipse, parabole, hyperbole en grec, mais on n'a qu'une partie en grec et une partie en arabe. Puis enfin, j'ai terminé pour la bonne bouche, Hipparque. Hipparque, que l'on qualifie parfois de plus grand astronome de l'Antiquité. Hipparque, qui, excusez du peu, découvre la précession des équinoxes. Hipparque, qui découvre, dit-on, la projection stéréographique, qui est à la base des astrolabes. Hipparque, qui établit le premier un catalogue de 850 étoiles. Hipparque, qui établit le premier une théorie du Soleil et de la Lune. Extraordinaire. On n'a rien d'Hipparque. Pas un écrit. Enfin, si, on a un petit écrit, un commentaire au phénomène d'Aratos. Aratos est un astronome, entre guillemets, du 3e siècle avant notre ère, qui écrit un poème dans lequel il parle des constellations. Alors Hipparque n'était pas d'accord, a écrit disons une prose pour dire « je ne suis pas d'accord avec Aratos sur tel et tel point ». C'est le texte qui nous est parvenu. Mais c'est tout ce qu'on a d'Hipparque. Donc, je le répète, l'essentiel du savoir antique, c'est Ptolémée. Un homme extraordinaire qui vit à Alexandrie, et je vous ai listé quelques-uns de ses ouvrages qui sont considérés comme les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la pensée humaine avec, on va le dire, les Principia de Newton et la relativité d'Einstein. L'ouvrage le plus connu, la Mathematicae Syntaxis, c'est-à-dire la composition mathématique qui va devenir, chez les Arabes, la très grande, l'Almageste. Un ouvrage extraordinaire, en 13 livres, où Ptolémée vous dit, eh bien voilà, on commence par la trigonométrie, je vais vous expliquer comment se déplace le Soleil dans le ciel, comment on trouve la position de son périgée, de son apogée, comment on trouve l'obliquité de l'écliptique, comment j'explique les phases de lune, comment je calcule la position de la lune dans le ciel, comment je calcule une éclipse de lune, une éclipse de soleil, comment je trouve que Jupiter va être en conjonction avec Antarès. Extraordinaire. On est même capable de calculer des occultations avec l'Almageste. C'est vous dire le très haut niveau atteint par cet ouvrage absolument fondamental, et ses successeurs ne vont pas s'y tromper. Les Proxeroi Canones, les tables faciles, un ouvrage peu connu qui est pourtant un des ouvrages majeurs de l'astronomie antique, parce que les promesses de l'utilisateur de Ptolémée et Ptolémée lui-même a vite compris une chose, c'est que l'Almageste, c'est un ouvrage difficile, où à chaque fois on explique la démarche intellectuelle pour mettre au point un modèle, mais pour l'utilisateur lambda, c'est très difficile. Donc, les tables faciles, c'est l'Almageste mis en table. Et les tables faciles sont l'ancêtre de toutes les tables astronomiques existantes, de tout ce qui existe au monde, à la fois des tables arabes, des tables de Tolède, des tables alphonsines, des tables de Toulouse, des tables pruténiques, des tables rodolphines de Kepler, et on peut le dire, n'ayons pas peur, des tables de l'Institut de mécanique céleste. Que ce soit les théories VSOP ou Wim Hof de Jacques Lascar, Eh bien, tout ça, ça remonte aux tables faciles de Ptolémée. Le Phaséis, alors un ouvrage plus secondaire, où Ptolémée vous traite du lever et du coucher des étoiles, par exemple, quelle doit être la hauteur du soleil en dessous de l'horizon et la hauteur d'une étoile au-dessus de l'horizon pour qu'on ait un lever héliac, et puis les liens aussi avec la météorologie. L'hypothèse stone planomenon, les hypothèses des planètes, un ouvrage plutôt cosmologique où Ptolémée vous explique la structure en pelure d'oignon du monde et vous dit finalement, alors vous avez d'abord la Terre, ensuite la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, etc. Puis par une coïncidence numérique, il finit en disant la dernière sphère qui borde les étoiles, elle se trouve à 20 000 rayons terrestres. Donc on estime que la distance des étoiles, c'est 20 000 rayons terrestres. Et ça, ça sera utilisé jusqu'à la Renaissance, hein. Vous savez que pour attendre la première mesure de distance d'étoiles, c'est le 19e siècle. Ensuite, l'Apotelesmatica, alors un ouvrage très important, qui était latinisé sous le nom de Quadripartitum, c'est la Tétrabible, c'est la Bible des astrologues, un ouvrage triste. Parce que, bon, c'est là où c'est le fondement de l'astrologie, hein, pour les astrologues. C'est la Tétrabible. C'est là qu'on vous dit, vous avez les signes de eau, de terre, de feu, etc. C'est un ouvrage, on vous dit, dites donc, la vie, c'est pas rock'n'roll, hein, quand vous le lisez. Je vous signale que, alors évidemment, tout de suite, on a traduit ça, en arabe et puis en latin, et c'est toujours traduit en français. Vous pouvez toujours, d'ailleurs, le trouver édité récemment aux Belles Lettres, avec une préface d'une spécialiste, entre guillemets, Elisabeth Tessier. Vous voyez, il y a toujours une littérature pour Ptolémée. Hein. Alors, le Périnalématos, un petit traité qui s'appelle De l'analème, qui est un traité qui traite non pas de gnomonique, mais de la projection orthographique. Le Planisphérium, alors c'est un ouvrage assez secondaire aussi, qui traite de la projection stéréographique. Un ouvrage majeur qui va avoir, on va avoir l'occasion d'y revenir, une grande influence sur les conquêtes maritimes au Moyen-Âge à la Renaissance, la géographie. C'est le premier ouvrage où on vous donne une carte du monde, on vous donne des coordonnées géographiques et puis des ciels de projection. L'inscription canobique, c'est une inscription qu'on pense être de Ptolémée, qui a été gravée sur une colonne à Canope, donc à pas loin d'Alexandrie, à l'ouest d'Alexandrie, sur laquelle il a écrit toutes les constantes fondamentales de l'astronomie. Un peu comme, vous savez, on envoyait un disque d'or dans l'espace avec voyageurs, où on a mis ce que c'était que l'humanité, et bien Ptolémée vous fait la même chose avec l'inscription canobique. Et puis deux autres ouvrages, genre l'harmonique, un ouvrage peu connu, qui est que certains considèrent comme le chef-d'œuvre de Ptolémée. C'est une relation, une recherche sur les liens qu'il y a entre l'astronomie, la musique et l'harmonie du monde et les chiffres. Et ça n'a pas trompé Kepler. Lorsque Kepler, en 1619, publie son Harmonie du monde, dans laquelle il donne sa troisième loi, eh bien c'est évidemment directement inspiré de Ptolémée. Puis dernier ouvrage, qui ne nous est pas parvenu d'ailleurs en grec, c'est l'optique où Ptolémée traite notamment la réfraction. Donc vous voyez, c'est un homme qui écrit de façon immense, c'est colossal son savoir. Alors après Ptolémée, l'astronomie, l'astronome important, c'est Théon d'Alexandrie, qui va être le principal commentateur de Ptolémée, qui va notamment commenter les tables faciles et puis son Almageste. Alors comment nous sont parvenus ces textes qui sont en grec, on est bien d'accord. Là, ça m'oblige à vous parler d'un mouvement majeur qui va se produire en Occident. D'abord, ça m'oblige à vous parler de deux choses. D'abord, de l'écriture et du support. Sur quoi écrivait Ptolémée? On avait deux types de supports, les papyrus. Vous savez, c'est cette plante qu'on prend les feuilles, qu'on sèche, qu'on colle et qu'on lisse. Et on les colle, les feuilles, et ça fait un rouleau. Et on ne lit pas un rouleau comme ça qu'au Moyen-Âge, vous savez, en déclamant, on lit un rouleau comme ça. Ça s'enroule au fur et à mesure, ça fait 10 mètres, un rouleau. Donc c'est le papyrus, on écrit dessus avec une encre indélébile, composée de plantes et de sel métallique. Donc l'inconvénient du papyrus, c'est qu'une fois que vous avez écrit dessus, vous ne pouvez pas l'effacer. Puis le deuxième support, c'est évidemment le parchemin. Donc c'est le prestige, le parchemin, c'est une peau de mouton qu'on a tannée, qu'on a lissé, qu'on a bien poli, sur laquelle on peut écrire. Et l'avantage du parchemin, c'est que quand vous avez une crise, entre guillemets, économique, vous dites « ce texte ne m'intéresse plus », vous grattez le texte et vous en réécrivez un autre par-dessus, ce qui donne les palimpsestes. C'est comme ça qu'au début du XXe siècle, Heiberg, on va en reparler, le grand philologue allemand, va décrire caché derrière un parchemin un grand texte d'Archimède. Alors, Donc, deux supports. Le papier arrive plus tard. Le papier arrive par les Chinois et les Arabes. Mais il s'implante qu'à partir du XIe, XIIe siècle. Donc, le support, c'est le papyrus, je l'ai dit, et le parchemin. Maintenant, comment on écrit? En quelle écriture? En grec. Eh bien, on écrit en oncial. Donc, l'oncial, c'est de la majuscule grecque où il n'y a ni séparation des mots, ni séparation des phrases. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de ponctuation. Et pour vous dire à quel point c'est difficile, c'est évidemment l'écriture littéraire, scientifique. Pour vous montrer à quel point c'est difficile de lire en oncial, eh bien je suis allé sur la ligne 12 du métro, à la Concorde, et là vous avez les droits de l'homme et du citoyen qui sont écrits en oncial. Alors essayez de lire, vous voyez. Alors, tout est collé, hein. Donc tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leur représentant la nécessité de la contribution publique. Alors, et vous voyez, c'est pas facile. Donc, ça pour vous dire que dans l'Antiquité, c'est avec ça qu'on écrit, sur tous les textes, d'accord, y compris sur les inscriptions. Toutes les inscriptions, toute l'épigraphie, d'ailleurs romaine, on va le voir, mais grecque aussi, c'est de l'oncial. Alors malheureusement, il y a assez peu d'inscriptions qui nous sont parvenues. Mais si vous allez à Constantinople, enfin à Istanbul, vous allez au centre d'Istanbul, il y a ce qu'on appelle l'hippodrome, avec cette gigantesque obélisque érigée en l'honneur de Théodose. Au pied, vous avez une inscription grecque, c'est de l'oncial. Donc, aucune séparation des mots, d'accord, et c'est difficile à lire. Ça, ça existe depuis le début de notre ère. Bon, alors ceci étant posé, il se produit dans l'Empire byzantin et même, voire une partie de l'Empire arabe, un problème d'acheminement en parchemin. Il y a une demande littéraire extrêmement importante, on demande de plus en plus de parchemin, et donc une crise. Et on manque de parchemin. Et il se produit un mouvement fondamental, on va changer d'écriture. On va, ce qu'on appelle, faire une translittération, c'est-à-dire qu'on va passer de l'oncial à la minuscule. La minuscule existait avant, hein, c'est l'écriture cursive grecque. Eh bien, entre la fin du 8e siècle et le 10e siècle, à Constantinople essentiellement, l'intégralité du savoir grec antique va être translittérée de l'oncial à la minuscule. Donc, le translittérateur à Constantinople a d'un côté un manuscrit en oncial et de l'autre un manuscrit vierge. Il passe de l'oncial à la minuscule qu'il recopie et qu'il accentue. Une fois qu'il a fait ce travail, le manuscrit en oncial, il ne sert plus. Voilà pourquoi on ne possède pratiquement aucun manuscrit antérieur au IXe siècle. Le plus ancien manuscrit que je vais vous montrer de l'Almageste, il y en a deux, ils sont du IXe siècle. On n'a aucun manuscrit antérieur pour Aristote, IXe siècle. La grande Helléniste qui nous a quittés, Jacqueline de Romilly, qui travaillait sur Thucydide, ben, on n'a aucun manuscrit de Thucydide antérieur au IXe siècle. Donc ça, il faut absolument le garder toujours à l'esprit. L'intégralité du savoir antique a dû passer obligatoirement par ce mouvement de translittération. Tout ce qui n'est pas passé par là est perdu. Alors, il y a d'autres causes de cette perdition du savoir. On va le voir comme malheureusement les bibliothèques ont brûlé. Là, je vous montre deux chefs-d'œuvre. C'est donc deux manuscrits de l'Almageste les plus anciens. Alors, par un hasard extraordinaire, celui de gauche, le Parisius Graecus 2389, est un manuscrit en oncial qui a survécu. Et à côté, le plus ancien manuscrit également de l'Almageste, mais aussi d'une grande partie des œuvres de Ptolémée, c'est le Vaticanus Graecus 1594, qui se trouve, vous le savez, donc au Vatican, comme son nom l'indique. Voilà les deux plus anciens manuscrits. Qu'est-ce qu'il y a eu comme manuscrit entre le IXe siècle et Ptolémée? Qu'est-ce qu'il y a eu comme manuscrit entre Aristote et le IXe siècle? On n'en sait rien. Il y a un vide énorme, qui peut parfois faire 10 siècles. Donc ça, c'est le travail des philologues et des éditeurs, lorsqu'on édite un texte, de dire, est-ce que le texte que j'édite, est-ce que, par exemple, le traité du ciel, est-ce que l'Almagest, c'est bien celui qui a écrit Ptolémée? Comment est-ce qu'on peut en être sûr? Ben, c'est toute la difficulté de la philologie. Je vous montre un autre manuscrit très important, le Vaticanus Graecus 204, qui date du 9e-10e siècle. C'est le plus ancien manuscrit grec qui conserve des œuvres comme les sphériques de Théodose, donc la sphère en mouvement d'Autolycos de Pitane, l'optique d'Euclide, les phénomènes, les dimensions, voilà. Le texte d'Aristarque de Samos, dimension et distance du soleil et de la lune, on ne le connaît que par ce plus ancien manuscrit grec. Et c'est évidemment tous les manuscrits grecs, on va le voir, qui sont rassemblés à Constantinople, qui vont nous parvenir à partir de la fin du XVe siècle et au XVIe siècle pour être imprimés. C'est la voie que j'appelle directe. Vous allez voir que ce n'est pas par elle que l'Occident a découvert le savoir antique. Et puis j'ajoute quand même l'Arleianus 2767, qui se trouve à Oxford, parce que s'il y a eu un mouvement de translittération de l'onstial en minuscule, il s'est produit la même chose pour les textes latins. À partir du moment où Charlemagne arrive au pouvoir, il fait appel à un immense érudit, Alcuin, et il lui dit « Il faut que l'écriture dans mon empire soit uniforme ». Et Alcuin va imaginer une écriture que vous connaissez tous, celle qu'on emploie tous les jours, la minuscule Caroline, le Carolus Charlemagne. Donc, il va se produire, pour les textes latins, la même chose que pour les textes grecs. On va translittérer une grande partie de l'écriture latine en minuscule Caroline. Et voilà le plus ancien manuscrit latin qui contient le De Architectura de Vitruve, qui, vous savez, contient toute une partie sur l'agnomonique. Un texte très altéré, d'ailleurs. Alors, sur ce graphique, il ne vous aura pas échappé qu'il y avait des pointillés de flèches. Ben, celle de droite, vous l'avez compris, c'est que entre les tablettes babyloniennes et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Puis il y a une deuxième flèche pointillée, ce sont les papyrus. Alors il se trouve que, à la fin du XIXe siècle, deux jeunes archéologues anglais, qui s'appellent Grenfell et Hunt, sont chargés d'aller fouiller une ville qui se trouve à peu près à 200 km au sud du Caire, qui s'appelle Oxyrhynchos. Et quand ils arrivent à Oxyrhynchos, ils se disent ah ben, ça ne va pas être terrible parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de ruines, il n'y a pas de temple. C'est une ville grecque qui était occupée depuis l'Antiquité, Oxyrhynchos, comme son nom l'indique, hein, mais il n'y a pas grand-chose. Alors ils vont, ils voient la ville, ce qu'il en reste, puis ils grattent un peu, et la seule chose qu'ils trouvent, c'est une décharge. Bon, ils se disent, bah, d'accord, alors on fouille la décharge. Puis, et avec les pieds, hein, ils grattent, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Des papyrus. Mais des milliers de papyrus, des centaines de milliers de papyrus. Extraordinaire. Plus de 100 000 papyrus vont être, au cours de nombreuses années de fouilles, ramenés de Oxyrhynchos à Oxford, où ils sont toujours. La plupart de ces papyrus sont écrits ou en grec ou en démotique. Le démotique, c'est l'écriture cursive égyptienne, par opposition à l'écriture des hiéroglyphes, qui est l'écriture royale. Alors, comme les tablettes babyloniennes, ces papyrus grecs concerne des ventes privées, du droit, et une petite partie concerne de l'astronomie. Et tout ce qui concerne l'astronomie, c'est infime, hein, c'est moins de 1000 papyrus. Hein. Et c'est ça qui est amusant, c'est évidemment des horoscopes. Hein. Des horoscopes. Alors là, ce sont des papyrus qui datent de la période impériale, c'est-à-dire entre le 1er siècle de notre ère et le 4e siècle de notre ère, donc de l'astrologie. Ça veut dire qu'au début de l'Antiquité, il y a des astrologues à Oxyrhynchos qui, toc, vous donnent la position du soleil, de la lune et des planètes pour votre naissance, moyennant finance, bien sûr, hein, ça existe toujours. Et alors, on apprend deux choses. Ça, c'est la grande stupeur. On se dit, il y a quand même des astrologues qui ne lisent pas que Ptolémée. J'ai oublié de vous dire une chose. Je vous ai dit, par exemple, sur Hipparque, on sait tout d'Hipparque par Ptolémée. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un contemporain de Ptolémée qui s'appelle Vécius Valens, qui est un astrologue. Et lui qui a fait, mais alors, que de l'astrologie. Et Vécius Valens vous dit, ah, mais moi, je n'utilise pas les tables faciles ou l'Almagest hein, pour mes horoscopes. Hein. J'utilise les textes, les théories babyloniennes. Alors, déjà, on était un peu étonnés. Et là, on s'est rendu compte, en analysant ces papyrus grecs d'Oxyrhynx, qu'ils utilisaient à la fois des théories babylonienne, donc de l'astronomie hellénistique, et des théories babyloniennes. Ça, c'était une stupeur, parce qu'on croyait que l'astronomie babylonienne était morte avec Ptolémée, qu'elle avait enfoncé tout le monde. Eh bien non, ça perdure dans les sables égyptiens jusqu'au moins au 4e siècle de notre ère. Il y avait encore des astrologues qui savaient utiliser ces fonctions arithmétiques croissantes et décroissantes. Donc ça, c'est absolument extraordinaire comme découverte. Ils ont été publiés par le grand historien des sciences américain Alexander Jones, qui a publié à peu près l'intégralité des papyrus astronomiques que l'on connaît aujourd'hui. Alors, on va accélérer un peu, parce qu'il y a un mouvement majeur qui se produit là, au 8e siècle de notre ère, c'est l'accession au califat des Abbassides, qui vont déloger les Omeyyades. Je passe sur les détails. Les Omeyyades, qui étaient une dynastie, c'est la première dynastie qui avait élu domicile à Damas, et pour des raisons internes, les Abbassides vont déloger donc ces Omeyyades et s'installer, fonder une nouvelle ville qui s'appelle Bagdad. Et là, les Abbassides qui vont régner sur l'empire arabe et perse jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'au Mamelouk, eh bien vont faire littéralement exploser le savoir. Parce que avec des gens comme Al-Mansour, qui est vraiment un des premiers grands califes perses, eh bien il va y avoir un mouvement extrêmement important de traduction du corpus grec en arabe. Ce sont pour beaucoup des gens perses, mais qui écrivent en arabe, d'accord ? Et il faut savoir une chose, c'est que à partir du 8e, 9e siècle, sous les califats de Al-Mansour et plus tard de Al-Mamoun, sous lequel vit Al-Khwarizmi et tous ces grands astronomes, l'intégralité du corpus grec, que ça concerne l'astronomie, l'astrologie, les mathématiques, la botanique, la médecine, tout ce qui est en grec est traduit en arabe. Donc un mouvement de traduction considérable, où on a des maisons de la sagesse. C'est un mouvement de traduction qui est supporté à la fois par des dons privés et par des dons publics. Et ces grands califes abbassides sont très avides de savoir. On a des exemples où on a des guerres qui se produisent évidemment entre ces califes et l'Empire byzantin. Et comme dommage de guerre, on demande des manuscrits grecs. Alors, il ne faut pas croire qu'il a fallu attendre les Abbassides pour traduire du grec. On sait que déjà sous les Omeyyades, déjà dès le VIe siècle de notre ère, l'Almageste est traduit du grec en syriaque, et après du syriaque au grec, parce que parfois on a dû passer par des langues intermédiaires, soit le syriaque, soit le pelvi. Alors, tout ce corpus grec, évidemment astronomique, va être diffusé dans tout l'Empire. Je signale une chose au passage, c'est que lorsque les Arabes arrive vers 642 à Alexandrie, contrairement à ce qu'on a écrit pendant très longtemps, ce n'est pas eux qui brûlent la bibliothèque d'Alexandrie. Hein ? Lorsqu'ils arrivent, la bibliothèque est déjà détruite depuis très longtemps. Je vous rappelle que cette bibliothèque d'Alexandrie, d'après les estimations que l'on a aujourd'hui, possédait presque 400 000 volumes. C'est énorme. Il n'en reste strictement rien. De même qu'il ne reste rien de la bibliothèque de Pergame en Asie mineure. Donc à la fois on a eu une perte du savoir antique par les bibliothèques qui ont été détruites, on va voir que les croisades n'ont rien ajouté à tout ça, et puis par ce mouvement de translittération dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors voilà quelques exemples rapidement. Al-Khwarizmi, vous le savez, alors c'est un perse, Al-Khwarizmi, hein. Mais tout de suite, il s'intéresse au corpus de Ptolémée, et notamment voilà, à la géographie. Il écrit, alors ça c'est une carte, il écrit massivement sur la géographie, les coordonnées des lieux. Autre grand astronome, Al-Battani, qui va publier ce qu'on appelle les tables sabéennes, alors ça s'appelle tables exhaustives sur le calcul des étoiles, où on commente évidemment Ptolémée, l'Almageste, ces tables faciles, on corrige Ptolémée, ce qui va être un des grands apports de l'astronomie arabo-persique, et puis on a même jusque en Afrique du Nord, au Maroc, et dans l'Espagne andalouse, qui est occupée par les Arabes, des versions de l'Almageste qui circulent. Donc tout ce savoir grec, il est diffusé par la voie arabo-persique. Alors, à partir du XIIe, XIIIe siècle, il va se produire un mouvement, là encore très important. Alors j'ai un petit peu de temps pour vous dire deux mots sur les échanges qu'il y a pas seulement avec la remontée du savoir via le sud de l'Espagne et le sud de l'Italie, mais ce qui se passe complètement à l'est. Il se trouve qu'à partir du XIIIe siècle, un mouvement mongol venu du nord s'établit au nord-ouest de l'Iran, du côté de Tabriz. Et c'est le petit-fils de Gengis Khan qui s'y installe et qui va fonder à 80 km au sud de Tabriz un observatoire très réputé, l'observatoire de Maraga, ou Mararé en persan, où va s'illustrer un grand astronome perse, Toussi, ou Al-Toussi, qui va travailler donc au XIIIe siècle, qui va fonder un observatoire dont il ne reste que des ruines, malheureusement. Et il a un programme d'observation. Donc on a à la fois des financements par le petit-fils de Gengis Khan, il s'appelle Ulagu. On a des observatoires, des instruments, une bibliothèque, du personnel qui est payé, et ça va aboutir à la publication de ce qu'on appelle les tables ilkhaniennes. Alors, ce renouveau de l'astronomie perse, va être traduit, et ça c'est original, non vers l'Empire byzantin. On sait qu'à partir du XIIIe siècle, un érudit qui s'appelle Jean Chrysococès, qui est un médecin de Constantinople, s'intéresse à l'astronomie et il publie des tables astronomiques, à finalité astrologique bien sûr, comme beaucoup de gens qui font de la médecine à cette époque-là. Et on lui demande, mais comment vous avez découvert l'astronomie? Il dit, c'est tout simple, j'ai rencontré un certain Manuel, un monsieur qui s'appelle Manuel, et ce Manuel avait des tables astronomiques et des ouvrages d'astronomie qu'il tenait d'un autre médecin qui s'appelait Grégoire Chioniades. Ce Chioniades, on a des informations sur lui, il a quitté Constantinople et il a été voir à Tabriz, à l'observatoire de Mararé, tous ces astronomes persans. Et il a traduit à Tabriz une partie du corpus perse, enfin arabe, en grec. Et il a ramené ça à Constantinople. Donc là, on a l'exemple d'un transfert de connaissances du perse arabe vers le byzantin. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment a été diffusé ensuite ce savoir à Constantinople. Constantinople qui va s'écrouler en 1204, lors de la quatrième croisade, puisque les croisés vont arriver et vont tout détruire. C'est une des pires catastrophes qu'il y a eu pour le savoir en Occident. Ils ont tout détruit, la ville, les gens évidemment, les bibliothèques, et il y a peu de choses qui ont pu échapper à cette terrible destruction de la quatrième croisade, qu'on estime infiniment pire que la prise par les Turcs en 1453. Alors, il se produit donc, à partir du XIIe siècle, XIIIe siècle, je l'ai dit, un mouvement très important pour nous en Occident, parce qu'il s'installe dans le sud de l'Espagne une école de traduction à Tolède. Et cette école de Tolède est dominée par un grand traducteur, Gérard de Crémone. Et je vous ai mis sur ce tableau les principales œuvres qui vont être traduites par Gérard de Crémone et quelques autres, comme Adélard de Basse et Michel Scott, ou Eugène de Sicile, qui vont être traduites de l'arabe en latin. Et c'est comme ça qu'on va redécouvrir les auteurs antiques, par cette voie arabo-latine. Alors vous voyez, Al-Khwarizmi, c'est un astronomique, vont être traduites par Adélard de Basse, Al-Bitruji, Aristote, un des ouvrages qui traite le plus d'astronomie, là, son Décello, son traité du ciel, il est traduit par Gérard de Crémone, l'Éconique d'Apollonius de Perge, très important, qui seront utilisés par Kepler plus tard pour comprendre la forme elliptique des planètes, c'est par Gérard de Crémone, l'Almageste de Ptolémée, évidemment, on va le voir, Copernic, lorsqu'il travaille sur son De Revolutionibus, il travaille sur une version arabo-latine de l'Almageste. Autolycos de Pitane, l'optique qui, je l'ai dit, est totalement perdue en grec. On ne connaît que la version arabe par Eugène de Sicile. Géminos, Archimède, Ptolémée, sa tétrabible, évidemment, Platon de Tivoli a compris tout l'intérêt qu'il y avait à traduire ce texte fondamental pour les astrologues. Et puis Al-Zarqali, qui est l'auteur des tables de Tolède. Alors ça, c'est très important, parce que Gérard de Crémone va les traduire, ces tables de Tolède. Ces tables de Tolède qui sont un petit peu un mélange des tables d'Al-Khwarizmi, des tables d'Al-Batani et des tables faciles de Ptolémée vont avoir de nombreuses descendances. Elles vont donner naissance aux tables de Toulouse, aux tables de Marseille et aux tables alphonsines qui vont dominer tout le Moyen-Âge en Occident, qui ne seront supplantées qu'avec les tables pruténiques de Reinhold et plus tard avec Kepler. Bien, tout ça, on doit à cette intense activité de traduction. On lui attribue plus de 50 traductions de l'arabe en latin. Donc c'est par cette voie arabo-latine que nous est parvenu, je le répète, l'essentiel dans un premier temps du savoir antique. Évidemment, j'ai mis en pendant ce que l'on doit aux traductions grecques, qui elles sont essentiellement faites par Guillaume de Morbecque, qui est un grec, enfin qui travaille en Grèce, du côté de Corinthe, et qui lui traduit du grec en latin. Alors Aristote, sa physique, son traité du ciel, Archimède, Héron d'Alexandrie, Ptolémée, par Georges de Trébizon. Donc vous voyez, assez peu de manuscrits grecs hein, qui sont traduits en arabe. Donc ça, c'est recopié, re-recopié, et puis on arrive à l'imprimerie. Je rappelle que le premier ouvrage imprimé en Occident, c'est le De Sphaera de Sacrobosco, en 1472. C'est un ouvrage très secondaire. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, Copernic, lorsqu'il travaille sur son De Revolutionibus, il lui faut les versions de l'Almageste. Eh bien, il a la version de l'Almageste, la première imprimée en 1515 à Venise, c'est la traduction arabo-latine de Gérard de Crémone. Alors, il dispose aussi un peu plus tard d'une traduction de Georges de Trébizonde, qui est un helléniste et un traducteur de premier plan. Enfin, de premier plan. Il s'est un peu, un monsieur assez querelleur, et il faut savoir que un contemporain de Georges de Trébizonde, le célèbre cardinal Bessarion, qui est un des plus éminents philologues latinistes et hellénistes de cette époque-là, du XVe siècle, et va quitter Constantinople, voyant arriver les Turcs. Il va arriver en Italie, à Venise, avec plus de 500 manuscrits grecs. Il va faire don de tous ces manuscrits grecs à Venise. Et ça va être le noyau qui va donner la Marciana, c'est-à-dire la bibliothèque Saint-Marc. Si vous allez à Venise sur la place Saint-Marc, vous allez voir, c'est marqué en gros, bibliothèque Saint-Marc, eh bien, pensez toujours à Bessarion, qui a fait don de tous ses manuscrits grecs, des trésors absolus, qu'il a sauvés, évidemment, de la destruction, et qu'il a offert à Venise. Et dans ces manuscrits grecs, il y avait un manuscrit de l'Almageste, et Bessarion a demandé à un autre astronome illustre, Regiomontanus, il lui a dit « Fais donc une traduction, parce que celle de Georges de Trébizonde est mauvaise. » Et c'est vrai que Georges de Trébizonde est un mauvais traducteur en grec, du moins pour l'Almageste. Vous voyez, c'est bien beau d'avoir des manuscrits, mais encore faut-il être bon traducteur. Le texte grec final de l'Almageste sera édité en 1538 à Bâle. Quelques mots rapidement sur un autre personnage important qui va faire beaucoup pour la diffusion du savoir grec, c'est Federico Commandino, qui va publier beaucoup d'œuvres de Ptolémée, d'Archimède, d'Apollonius. Et je vous ai montré ces deux magnifiques frontispices, d'abord le traité de l'analème et ensuite le planisferium. Et je vous les montre parce qu'il y a en plus, ils ont été édités chez Aldemanus, le grand éditeur grec vénitien, avec, vous le voyez, cette ancre et ce dauphin enroulé qui signifie hâte-toi lentement. Donc là encore, Commandino, grand diffuseur du savoir grec en Occident. Donc on va découvrir à nouveau ces grands astronomes par, grâce aux éditeurs qui ont un rôle majeur, idem pour la géographie de Ptolémée. Alors la géographie de Ptolémée fait partie de ces ouvrages qui ne nous est pas parvenu par la voie grecque, pas par la voie arabe, je veux dire, on l'a connu par la voie grecque. C'est un ouvrage très important parce qu'il donne le premier une carte du monde, et vous savez que ça a beaucoup influencé des gens comme Christophe Colomb, par exemple, qui ont compris que, ben, comme la Terre était ronde, on pouvait peut-être voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Ça, on va le découvrir par la voie grecque, par un autre érudit qui s'appelle Maxime Planude et qui va le rapporter de Constantinople, qui va en faire des copies, qui va être diffusé partout. On imprime des textes encore tardivement. C'est le cas des tables faciles de Ptolémée, qui seront éditées au début du XIXe siècle avec un commentaire très compétent de Delambre. Et finalement, l'intégralité du corpus grec, astronomique, sera publié par le grand éditeur philologue allemand Ludwig Heiberg, qui va publier l'intégralité des manuscrits, qui va donner leur version définitive. Et on n'imagine pas aujourd'hui publier Ptolémée, Archimède, Apollonius ou un autre sans se référer au texte de Heiberg, qui a fait un travail mais absolument considérable, qui est un philologue danois. C'est avec Heiberg que je vais terminer. Je termine sur une note interrogative. On est capable de lire aujourd'hui des tablettes babyloniennes qui ont 2500 ans. Il est probable que dans 2500 ans, on pourra encore les lire. Mais est-ce que dans 25 siècles, on pourra encore lire ce PowerPoint ? C'est pas évident. Vous voyez, ça nous met devant une interrogation face à la transmission du savoir astronomique actuel. Il y a un collègue astronome au bout de la place, là-haut, que je remarque, et qui m'a dit il n'y a pas très longtemps « Ah, mais les observations astronomiques que j'ai faites en 1980 sont illisibles. » Vous voyez, il y a 30 ans, on faisait des observations, on ne peut plus les lire aujourd'hui. Et alors, de la dématérialisation du savoir, on peut se poser la question sur cette transmission des observations astronomiques et notre savoir pour le futur. Une orientation bibliographique, si ce sujet qui est très important, qui est plus très divers, parce que ce que j'ai dit pour l'astronomie s'applique aussi aux mathématiques et à une grande partie du savoir, hein. D'Homère à Erasme, un livre absolument remarquable de deux grands philologues anglais, Reinhold et Wilson, aux éditions du CNRS. C'est vraiment un livre magistral. Et puis, puisqu'on est dans les livres magistraux, un maître qui nous a quittés il y a quelques années, Jean Irigoyen, qui était professeur au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, un immense helléniste qui a fait dans la collection Lander aux belles-lettres la tradition des textes antiques, absolument remarquable. Si vous vous intéressez plus à l'astronomie hellénistique et babylonienne, je vous conseille évidemment le livre du maître Otto Neugebauer, « Les sciences exactes dans l'Antiquité », qui est un chef-d'œuvre. Et puis, tout ce qui concerne l'intense activité de traduction arabo-islamique et arabo-latine, Dimitri Gutas, « Pensée grecque, culture arabe ». Voilà, je vous remercie.
Merci. Je place aux questions. Je voulais juste faire un commentaire sur ce que tu as dit de la dématérialisation du savoir. C'est vrai que c'est un problème qui ne concerne pas seulement d'ailleurs le numérique, qui concerne déjà les relevés photographiques qu'on a pu faire au début du XXe siècle. On a déjà par exemple, Kodak a eu de gros problèmes avec les cartes, les relevés du Palomar. La qualité des émulsions, la nécessité de stocker, le problème des champignons qui altèrent tout ça. Donc c'est vraiment un problème. Je crois qu'on va être condamné pour ne pas perdre ce savoir à repiquer. Alors fort heureusement, il est plus rapide de repiquer un fichier numérique que de retailler une plaque ou un obélisque. Mais enfin, c'est vrai que c'est un problème qui va se poser de plus en plus.
Absolument, oui.
Bravo Denis pour cette présentation superbe. Une question, j'ai pas bien suivi au début ce que tu as dit, la pierre de Rosette babylonienne qui était en trois langues. Alors j'ai compris qu'il y avait le babylonien, mais les deux autres c'est quoi ?
Alors il y a le babylonien, l'élamite et l'acadien. Le quoi ? Élamite et l'acadien. Alors ce sont trois langues différentes. Rollinson a d'abord déchiffré le babylonien. Et comment ça se fait ? Parce que dans l'inscription de Behistun, donc, qui est un hommage à Darius Ier, on a une liste de rois en cunéiforme. Et Rollinson comprend que cette liste de rois, c'est la même que celle que donne en grec Hérodote. Donc à partir du grec, il va déchiffrer d'abord le babylonien, et plus tard, on va déchiffrer l'élamite et l'acadien.
Enfin, moi, je suis subjugué par toutes vos connaissances. Vous êtes tombé dans le puits où Simon de Cyrène a essayé de... Enfin, bref. Pour l'Égypte, j'ai vu sur votre chose que vous remontiez, en fait, très peu, 9e siècle, mettons, avant Jésus-Christ. Pourtant, je me rappelle avoir visité, il y a des coupoles où il y a tout le ciel. Et puis, il y a certainement des papyrus égyptiens très antiques là-dessus. Quel est l'apport des Égyptiens là-dedans ?
Alors, je vais être raide dans un premier temps, je vais édulcorer après. L'apport des Égyptiens est égal à zéro. On n'a absolument aucune observation ancienne égyptienne. D'accord ? Pas une éclipse. Pas une occultation. Alors, je l'ai dit, chez les Babyloniens, on a non seulement des prévisions, mais on a des mentions d'éclipses qui remontent jusqu'au 8e siècle avant notre ère. Et vous savez, pour l'astronome contemporain, l'importance de ces éclipses historiques, parce que je rappelle que c'est grâce à elles que l'on a mis en évidence, à la fin du 19e siècle, le ralentissement séculaire de la rotation de la Terre. C'est grâce aux tablettes babyloniennes qu'on a compris qu'il y avait un ralentissement séculaire auquel se superposent d'autres ralentissements, des ralentissements saisonniers. Effectivement, il y a chez les Égyptiens des représentations du ciel, mais je l'ai dit d'emblée, on ne peut pas considérer que les représentations du ciel ou de la mythologie soient de l'astronomie, soient de la science. Sinon, comme le disait un astronome illustre, autant faire rentrer le dieu des tempêtes et de la pluie dans l'hydrodynamique. Hein. Donc, des Égyptiens, on n'a rien. Les papyrus que l'on a des Égyptiens, comme le papyrus Rhin, par exemple, sont des papyrus mathématiques. En astronomie, il n'y a rien. Les papyrus égyptiens sont grecs et ils sont, je vous le dis, assez tardifs. Alors, on en a qui datent de la période d'Auguste et qui sont toujours astrologiques. Ça, c'est très surprenant. Hein. Vous savez, le grand mathématicien Poincaré a dit, je ne sais plus où, j'ai eu du mal à retrouver, enfin, je n'ai pas retrouvé d'ailleurs cette référence, il a dit « Les astronomes ne mesurent pas quel point ils sont redevables aux astrologues ». C'est dur à dire, surtout en présence de Daniel Kunt, qui avec moi a écrit massivement contre les charlatans et les charlatanistes, on va dire. Mais c'est le moteur essentiel. C'est le moteur essentiel. Les Babyloniens, ils font de l'astronomie pour tout de suite des horoscopes. Les Grecs, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il y a... Enfin, je pense que l'Almageste et les tables faciles ont connu une grande diffusion dans l'Empire, à la fois chez les Arabes, ils ne s'en cachent pas, hein. Al-Ma'moun, Al-Mansour, les califes abbassides, même très tardivement, vous disent « L'astrologie, c'est une aide au gouvernement, c'est une aide à la politique. » Même si c'est en contradiction parfois avec l'islam. Qu'importe, ce mouvement astrologique, on le retrouve jusqu'à Kepler, même tardivement. Toutes les tables astronomiques qui ont été traduites, qui nous sont parvenues, vous l'avez vu, par la voie ou grecque ou par la voie arabo-latine, c'est toujours une finalité astrologique. Ça, c'est très marquant. Chez les Égyptiens, il n'y a rien. On ne doit que deux choses en astronomie aux Égyptiens, la division de l'année en 365 jours, et ils ont inventé un concept qui s'appelle les décans, qui est une division du ciel, vous savez, en zones, qui va aboutir à la division du jour en 24 heures. C'est ce qu'on doit aux Égyptiens.
Mais ils étaient quand même très utilitaristes vis-à-vis de l'astronomie, parce que les levées héliaques étaient observées avec précision, ce qui donne d'ailleurs l'année, comme tu le dis, à 365 jours, mais aussi j'avais lu que l'orientation des pyramides est tout à fait précise. Alors je ne sais pas ce qu'il faut penser de ça, hein, qui permet d'ailleurs de déterminer la précession, enfin de retrouver la précession des équinoxes.
On sait que la précession, d'après ce qu'on sait, c'est Ptolémée qui dit, c'est Hipparque qui l'a découverte. Hein. Mmh. On sait que la précession n'est pas connue des Babyloniens, par exemple. Pour ce qui concerne l'orientation des pyramides, on a effectivement imaginé quantité de théories plus ou moins farfelues. Il faut dire clairement les choses, on ne sait pas comment les pyramides ont été orientées. On peut imaginer des méthodes plus simples avec un gnomon planté en terre. C'est plus facile de déterminer l'axe est-ouest et l'axe nord-sud plutôt que d'aller avec les étoiles. Les Égyptiens n'avaient aucune connaissance non plus de la précession. Je veux dire, c'est vrai que quand on se met dans la pyramide de Khéops, dont l'angle, enfin un couloir est égal à l'angle, à la latitude du lieu, donc effectivement on doit viser une étoile polaire, ils visaient l'étoile Alpha du Dragon, ça leur donnait rien, je veux dire. Il n'y a rien chez les Égyptiens qui donne ça. C'est utilitariste, effectivement, ils observaient le lever héliaque de l'étoile Sirius. Alors on s'est dit tout de suite, mais ils ont dû voir qu'il y avait une dérive entre d'une année sur l'autre, au bout de quelques années, il y a une dérive de ce lever héliaque de Sirius, parce qu'évidemment, il y a l'année sidérale et l'année solaire. Ils ont tout de suite compris que l'année solaire, c'était un peu plus de 365 jours. Or, ils ont vécu pendant très longtemps avec ce qu'on appelle une année vague, et ils se sont très bien contentés de ce système. Donc, il n'y a pas vraiment d'astronomie chez les Égyptiens qui est concentrée dans le bassin du Nil, qui n'a pratiquement aucun lien, aucun échange avec les autres civilisations. Alors que chez les Babyloniens, vous avez quand même des liens, des conquêtes avec les Grecs, et Alexandre, n'oubliez pas, a été jusqu'aux frontières de l'Inde, jusqu'à l'Indus. Et on sait qu'il y a eu des contacts avec l'astronomie indienne. Lorsque vous prenez le grand texte de l'astronomie indienne, le Surya Siddhanta, qui date du IVe siècle de notre ère, qui est un texte qui a été édité au XIXe siècle, vous voyez très clairement à la fois une influence hellénistique dans les modèles épicycliques qui sont utilisés pour les théories solaires, lunaires et planétaires, et aussi certainement une influence babylonienne dans l'utilisation du système sexagésimal. Nos heures, une seconde, 60 minutes, 60 secondes, c'est babylonien. Hein. Alors, il y a eu des échanges culturels très importants, et ça vous montre bien aussi une chose, tout ça, c'est que l'astronomie d'aujourd'hui, c'est pas une civilisation qui peut se dire « j'en suis propriétaire ». Chaque civilisation, au cours de cette translation studiorum qu'on a vue, a apporté sa pierre de touche. On a quelque chose qui naît chez les Babyloniens, une rationalisation du ciel, qui est perfectionnée, qui perdure jusqu'au début de notre ère, qui est améliorée par les Grecs, qui est portée à son apogée, qui est récupérée par les Arabes, qui vont apporter aussi des innovations majeures, qui arrive en Occident. Vous voyez, ce déplacement des aires culturelles, j'insiste bien, montre que personne ne peut se prévaloir de dire « c'est moi qui ai tout inventé ». C'est un mouvement qui a tendance à exister dans certains milieux actuellement.
Si la bibliothèque d'Alexandrie était, s'il n'y avait plus rien, d'où vient l'essentiel des textes grecs aux Arabes ?
Alors, les Arabes, eux, alors la bibliothèque d'Alexandrie a connu des vicissitudes, on sait déjà sous Jules César et Cléopâtre, les scènes de ménage se sont traduites déjà par des problèmes. Je vous ai parlé de Théon d'Alexandrie, qui est le grand commentateur de Ptolémée. Vous connaissez sa fille Hypatie, qui sera lapidée par les chrétiens. On sait déjà qu'à cette époque-là, la bibliothèque d'Alexandrie a subi de graves dommages. Ce sont des papyrus, ça brûle très facilement. Les Arabes, eux, alors les manuscrits circulent. On n'a pas que Alexandrie. Je l'ai dit, on a Pergame, où il y a presque 400 000 volumes. On a des villes intellectuelles comme Antioche. On a une circulation en fait, du savoir dans le pourtour méditerranéen. Et les Arabes, eux, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils conquièrent toute cette zone, lorsqu'ils partent en gros de la péninsule arabique, ils vont s'étendre vers le nord-ouest de l'Afrique et vers l'Empire byzantin, vont rentrer au contact de ces grandes villes, alors j'ai dit Damas, Antioche, Pergame, et donc vont découvrir des bibliothèques, des universités, parce qu'on enseigne l'astronomie à cette époque-là, et eux, ils vont traduire du grec, mais en oncial, directement en arabe.
Merci, mais pour parler d'un autre continent et qu'ont fait les Chinois, il me semble quand même qu'on a beaucoup de textes d'astronomes chinois qui nous parlent des galaxies et autres.
Alors, je ne suis pas compétent
notamment
pour vous parler d'astronomie chinoise.
De supernova qui oui. ont eu lieu.
Alors, pour les Chinois, c'est très simple. Si l'astronomie chinoise vous intéresse, il y a deux auteurs qui sont français en plus, qui sont des grands sinologues. Tout ce qu'a écrit Léopold de Saussure, vous pouvez trouver sur le net, c'est très important. Et notamment le grand sinologue français qui était membre de l'Institut, Henri Maspero, qui a publié des choses fondamentales sur l'astronomie chinoise, qui est très lacunaire. On a finalement assez peu de choses. C'est une astronomie qui est pas technique, on va dire. Lorsque les jésuites, comme Matteo Ricci, par exemple, au XVIe siècle, arrivent en Chine, ils voient bien que c'est une astronomie qui est nettement inférieure à l'astronomie occidentale. C'est une astronomie essentiellement impériale, c'est-à-dire c'est une astronomie fondée sur les calendriers et la prévision des éclipses, par des méthodes assez rudimentaires. Alors, votre allusion à la nova du XIe siècle, c'est celle-là. Effectivement, on sait que les astronomes chinois ont observé cette nova. La question, c'est pourquoi en Occident, on n'a pas de mention de cette nova. Alors, depuis, on a trouvé peut-être des mentions occidentales, mais il faut bien dire une chose, c'est que l'astronomie en Occident, à cette époque-là, d'abord, il n'y a rien. Au XIe siècle, mis à part le renouveau espagnol et italien, en France, entre guillemets, en Gaule, il n'y a rien du tout. Hein. On est quand même dominé par, on est fortement imprégné de ce diktat aristotélicien qui a dit « les cieux sont immuables ». Rien ne s'y passe. Donc pourquoi observer le ciel puisque rien ne s'y passe ? Donc c'est ce qui, par exemple, va illuminer Tycho Brahe en 1572 lorsqu'il va dire « mais attention, Pour, il ne s'y passe rien, mais là, je vois une nouvelle étoile qui est visible en plein jour, la supernova de 1472 dans Cassiopée. Mais pendant longtemps, on n'observe pas le ciel. Et on le voit très bien à l'attitude des astronomes byzantins. Les astronomes byzantins se considèrent comme les seigneurs, parce qu'ils parlent grec, ce sont les vrais continuateurs de Ptolémée, et on le voit dans leurs travaux. Ils considèrent que tout ce qui est observation, etc., c'est très bâtard. Eux, ce sont des seigneurs, ils s'intéressent que aux choses très théoriques. On le voit dans leur traité sur les astronautes, par exemple. Ils vous font des cours magistraux sur la projection stéréographique, sur les tracés des cercles, etc. Mais pour ce qui est d'observation, non, on n'observe pas. Pas du tout. C'est pas du tout dans l'esprit du temps. Alors maintenant, bon, réponse, je vous dis précisément à votre question, pourquoi est-ce qu'on n'a rien de cette nova? Je ne sais pas. Je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question, si vous voulez. On n'a rien. Il manque beaucoup de choses. C'est très lacunaire. On a assez peu d'observations de l'Antiquité, finalement, si vous voyez. Hein. On a des observations surtout d'éclipses, quelques observations d'occultation, notamment chez Aristote. Dans le Décélo, il mentionne une occultation de Mars par la Lune, mais on a très peu de choses, en fait.
Merci. Juste une mention, et on a corrélé avec une observation qui aurait été faite par des moines dans les Grisons, je crois. Dans un monastère dans les Grisons, ils ont relevé des observations de la supernova qui coïncident avec celles observées par les Chinois.
C'est possible, oui. Ouais.
Sait-on quelle est la profession ou l'activité des astronomes de l'époque? Est-ce que c'est des religieux, des militaires, des commerçants, des savants? Quelle était leur motivation?
Ptolémée, on pratique à cette époque-là ce qu'on appelle l'évergétisme, c'est-à-dire, c'est le CNRS actuel. C'est-à-dire que Ptolémée, l'empereur, lui dit, tu es Alexandrie, tu as des instruments d'observation, tu ne t'occupes pas des problèmes de tous les jours. Hein. Il a une bibliothèque, il est logé, nourri, blanchi, il n'a pas de problème d'argent, il a une bibliothèque à sa disposition, il a des scribes pour copier. Il ne faut pas croire que c'est les gens qui écrivent eux-mêmes les textes. Hein. En général, Ptolémée, il a des scribes autour de lui, il a plusieurs ouvrages, il n'y en a qu'un seul qui écrit l'ouvrage, et les autres ont plusieurs ouvrages, et il dit, oui, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que dit Hipparque? Ah oui, alors, notez, ça c'est bon, qu'est-ce qu'il dit machin? Non, ça ne m'intéresse pas. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, ça il faut noter. Voilà comment on écrit un livre en antiquité. Hein. C'est pas Ptolémée qui se met à la table de travail le soir, et qui lit, bon, Almagest, chapitre 1, etc. Donc c'est quelqu'un d'autre qui écrit. Lui, il vit, je dirais, du bon plaisir, des grâces, entre guillemets, de l'empereur. Alors, ce sont vraiment des astronomes professionnels comme aujourd'hui. Hein. Al-Battani, qui est un astronome immense arabe, ses successeurs, Al-Khwarizmi, Al-Bitruni, etc. Sabit Imkoura, par exemple, qui connaît le syriaque, le grec, l'arabe. Ce sont des gens qui vivent à la cour du calife. Le calife finance de sa poche ces gens-là, il leur dit « consacrez-vous au savoir et au passage, dites-moi ce qui va m'arriver après-demain ». Voilà. Les astronomes ne sont pas bêtes. Ils tirent parti tout de suite de cette aide à la politique. Kepler fera la même chose avec l'empereur Rodolphe II. Hein. Quand tu lui diras « dis donc, si tu veux que je te dise ce qui va t'arriver avec les Turcs, il faudrait que tu me payes », Rodolphe II lui dit « ah oui, finalement, il a raison, voilà ». Donc ce ne sont pas des militaires, ce sont vraiment des intellectuels la plupart du temps. Et certains sont carrément astrologues. Mais il n'y a pas, c'est pas du tout péjoratif, hein. Vous avez compris l'importance de l'astrologie à cette époque-là, c'est pas notre vision contemporaine.
Bon, j'ai bien aimé la comparaison avec le CNRS. Mais... Oui. Alors, questions, commentaires? Comment tu te représentes l'astronomie aujourd'hui? Pardon, que fait un astronome professionnel tous les jours? Est-ce qu'il dicte aussi ses résultats à quelqu'un qui tape sur un ordinateur?
Je pense, mais alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui va se passer dans 25 siècles. Comment les historiens du futur nous verront aujourd'hui? Ça, c'est très intéressant.
Quel genre de documents ils auront sous la main là?
Exactement, c'est curieux de savoir ça.
Mais j'ai déjà eu ce problème il n'y a pas très longtemps, une semaine. Vous savez, il y a une base de données qui s'appelle NED, qui est une base de données qui est californienne et qui rassemble toutes les données que qu'on collecte en extragalactique, sur les galaxies, sur les nébuleuses, etc. Bon. Et c'est un travail là, qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années, donc chacun peut retrouver des résultats qui l'intéressent. Et là, on me demande des spectres que un étudiant, un de mes étudiants, avait pris il y a 15 ans. impossible de savoir où sont les spectres. Donc je lui ai écrit à cet étudiant qui maintenant fait un autre travail, qui n'est plus astronome. Il m'a dit, écoute, ça fait 10 ans, je ne sais pas où sont les spectres, ils sont publiés, mais les spectres, vraiment le résultat brut, numérique, on a été pour l'instant incapable de le trouver. Je pense que je vais y arriver, mais ça montre bien que voilà, ça va vite.
Que
et si on ne garde pas précisément quelque part, oui. En plus les données ont changé, ce n'était pas les mêmes supports, et puis on sait que ça a été refait depuis plusieurs fois, on n'a pas forcément intérêt à les garder.
Le savoir antique nous est parvenu de façon très ténue, hein, ça tient très peu de choses. Il suffit qu'il y ait un incendie et on perdait toute la petite astronomie, c'est-à-dire Géminos, Sotolikos de Pitane, ça tient qu'à une seule chose. C'est un fil très ténu qui nous relie à l'Antiquité, c'est extraordinaire. C'est un miracle qu'on ait pu découvrir ça. Vous avez compris qu'il y a plein de choses qui sont totalement perdues pour l'éternité, qu'on ne retrouvera jamais. Et c'est ce qui arrivera simplement, je pense, pour le futur, avec nous.
Merci. Est-ce que ce sont des disparitions accidentelles, des incendies, ou est-ce que ce sont des destructions volontaires ?
Non, je ne pense pas des autodafés, si c'est à ça que vous pensez. C'est souvent accidentel. Le papyrus, ça brûle. Je l'ai évoqué avec la 4e croisade de 1204, mais j'aurais pu vous évoquer plus récemment, au 19e siècle, l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg, pendant la guerre de 1870, qui était une véritable catastrophe. Il y a le feu à la Bibliothèque nationale, vous avez toute une partie du savoir de l'humanité, c'est un bien commun qui disparaît. Donc la préservation de ce savoir, elle est tout à fait fondamentale. Et je vous l'ai dit, ce que j'ai dit pour l'astronomie s'applique aussi au savoir antique. On a à peu près 50 000 manuscrits grecs en tout. On a beaucoup plus des latins, mais il y en a beaucoup qu'une littérature très secondaire, surtout théologique. Alors pour les textes théologiques, c'est très différent. On a des textes beaucoup plus tardifs. Mais la préservation, oui, et ces destructions, elles sont. C'est les vicissitudes de l'histoire, je dirais. Mais je n'imagine pas une destruction volontaire de ce savoir. En tout cas, les textes historiques ne permettent pas de montrer qu'il y a eu des destructions volontaires, sauf peut-être au XXe siècle, dans une période sombre.
Bien, je crois qu'on va conclure cette phrase-là. Et avant de te remercier et de t'applaudir une dernière fois, parce que je suis persuadé que tu le mérites, je vous rappelle que le mois prochain, mardi 1er février, la conférence sera une sorte de prolongation de cette réflexion, puisqu'il s'agira de Carlo Rovelli, peut-être que tu connais, qui va nous parler d'Anaximandre. Si j'ai bien compris, rien ne nous est parvenu, mais enfin, il va quand même consacrer une conférence entière sur sa pensée. Hein, comment est née la science, Anaximandre, premier scientifique. Voilà, ça c'est le point de vue de Carlo Rovelli. En tout cas, merci.
Merci à vous.
Très brillante conférence. Merci beaucoup.